Vous êtes sur RTL.
RTL Matin.
Édition spéciale.
Yves Calvi.
Continuez à nous appeler au 3210. Je vous rappelle que vous pourrez dialoguer avec la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées à partir de 9h. Nous retrouvons tout de suite Christophe Decroix, chef du service étranger d'RTL. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Vous êtes mobilisé dans notre brigade et avec nous, nous allons répondre aux questions de nos auditeurs. Un auditeur nous dit que son fils est en vacances aux Philippines. Comment va-t-il être rapatrié? Et peut-il être d'ailleurs?
Alors il y a des milliers de Français qui sont bloqués partout dans le monde, en Tunisie, au Maroc, aux Philippines, aux États-Unis. Le problème, c'est que les compagnies aériennes ont énormément diminué le nombre de vols. Et comme il y a aussi moins de personnel navigant, Corona oblige, il y a moins de monde à bord. Ils embarquent moins de monde à bord des avions. Officiellement, les frontières de l'Europe sont restées ouvertes aux ressortissants de l'Union européenne qui veulent rentrer. Donc, si vous aviez un vol prévu et s'il est maintenu, c'est à vérifier, vous rentrerez normalement. Seulement, voilà, je vous le disais, beaucoup de pays ont suspendu les liaisons aériennes avec l'Europe. Il faut donc contacter urgemment votre compagnie aérienne. Le gouvernement français annonce de son côté qu'il va mettre en place un dispositif aérien avec Air France pour permettre aux Français de se retirer. Encore faut-il que les avions d'Air France puissent se poser. On a vu en Équateur un avion d'Air France qui n'a pas pu se poser parce que les habitants de la ville où se trouve cet aéroport sont venus avec leur voiture pour l'empêcher de se poser alors qu'ils venaient récupérer des touristes français. Un conseil en tout cas, inscrivez-vous sur le site Ariane, sur le site du ministère des Affaires étrangères. Ça permet de vous faire connaître. En cas de problème, contactez l'ambassade si vous y arrivez, car les standards sont saturés.
Bien sûr.
Essayez aussi le mail.
Parfait. Christophe, on parle assez peu de l'Afrique. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de cas? Personne ne le croit.
Alors, oui, le virus semble de fait se propager moins vite sur le continent africain, mais il est déjà présent quand même dans une trentaine de pays. De nombreux gouvernements ont déjà pris des mesures de protection, comme la fermeture de leurs frontières, des écoles, parfois des quarantaines sont imposées. On déplore quelques morts dans le nord du continent, en Égypte, en Algérie, et depuis hier, il y a un premier cas mortel en Afrique subsaharienne, au Burkina. Alors, s'il y a moins de cas, il peut y avoir en fait plusieurs raisons. D'abord, le manque de tests. Comme on fait moins de tests, on détecte moins de cas. Des gens peuvent être malades du corona, voire en mourir, sans le savoir. Mais certains pays africains ont aussi une expérience des épidémies après avoir connu Ebola.
Ebola notamment.
Il y a aussi une population jeune, donc potentiellement moins vulnérable. Enfin, certains espèrent aussi que la chaleur aide à terrasser le virus, mais rien ne le prouve à ce stade. L'OMS appelle en tout cas l'Afrique à se réveiller et à se préparer au pire.
Autre question à caractère international, pourquoi y a-t-il moins de cas mortels en Corée du Sud et en Allemagne?
Alors, la Corée du Sud, qui a eu l'expérience du SRAS en 2003, a réalisé beaucoup plus de tests de dépistage que nous. Plus de 270 000 tests. En France, vous savez combien on en a fait ?
42 500.
Voilà. Alors que nous avons 16 millions d'habitants de plus que la Corée. Résultat, les cas et les foyers d'infection sont détectés plus tôt en Corée, et donc mieux soignés. Au total, 75 morts et un taux de létalité de 0,9% quand on en est à plus de 2% en France et plus de 7% en Italie. Alors en Allemagne, on a aussi un taux très faible de létalité, 0,2%. Là aussi, plus de dépistage, en particulier dans l'entourage des premiers malades. La plupart des laboratoires d'analyse en Allemagne peuvent y mener des tests. Oui. Mais malgré tout, les Allemands savent qu'ils vont aussi connaître. Ils sont aussi à un stade moins avancé en fait, actuellement. Et tout ça va augmenter. Ils ont déjà prévu d'ouvrir des hôtels et des grandes halles pour les transformer en hôpitaux.
Je lisais un papier dans Le Monde hier passionnant concernant la Corée du Sud. Ils n'ont pas pris de mesures de confinement, mais en revanche, ils sont très respectueux de tout ce qu'on leur demande de faire.
Masque, tout à fait.
Voilà, et comportement civique les uns vis-à-vis des autres.
Et contrairement à ce que disent certains, on parlait de fake news il y a quelques instants, la Corée du Sud est une démocratie. C'est pas parce qu'il y a des mesures coercitives d'interdiction qu'ils l'ont fait.
Comment font les gens dans les autres pays pour rester en confinement? Qu'est-ce qu'ils font? Et comment se débrouillent-ils, en fait, le coronavirus à l'échelle de la planète?
Ah bah ils font comme chez nous, grâce à la solidarité, alors par exemple avec les plus âgés, les plus démunis. En Pologne, par exemple, on est passé des petits papiers, vous savez, qu'on colle dans les escaliers, à des groupes internet de plus de 80 000 personnes. Courses, prêts de voiture, de logement, cours particuliers via le net, repas gratuits pour le personnel médical qui n'a pas le temps de cuisiner. En Italie, où on aime justement manger, on s'échange des recettes pour ne pas grossir pendant le confinement, parce que c'est la grosse crainte, évidemment.
Oui.
Et puis en Espagne, il y a des petits malins qui proposent à ceux qui veulent prendre l'air de leur louer leur chien. Ce qui permet, vous savez, d'obtenir un sauf-conduit. Et faute de chien, on a vu même certains Espagnols tenter de sortir avec des peluches.
Merci beaucoup Christophe Decroix, chef de notre service étranger à la rédaction d'RTL. Et bonjour à Sophie Orange.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
On continue avec de nombreuses questions de nos auditeurs au 3210 et aussi par mail à l'adresse témoin@rtl.fr. Sophie, nous avons reçu plusieurs questions sur les masques, comme celui de Marie sur Facebook. Je suis couturière, je vois des gens confectionner des masques, est-ce efficace? Ou alors Didier, par SMS, les masques de chantier anti-poussière sont-ils efficaces? Qu'en est-il, Sophie?
Alors, on va être très clair. Non, un masque cousu main, non, un masque de chantier ne protège pas du coronavirus, puisqu'on le répète, ce virus mesure quelques nanomètres. Il passe donc sans problème, évidemment, à travers le tissu ou à travers un masque non réglementaire. Ouais. Seul le masque FFP2 est efficace. Ces masques sont réservés aux soignants et uniquement aux soignants. Ça veut dire que si vous en avez reçu un par votre entreprise ou par je ne sais quel biais, surtout ne l'utilisez pas si vous allez juste dans la rue faire des courses. C'est un masque qui pourrait vous être utile, on ne vous le souhaite pas si vous êtes malade. Donc surtout pas de gaspillage. J'ai même vu sur les réseaux sociaux des personnes qui pensaient qu'on pouvait utiliser des couches lavables pour les mettre devant
ou
la
bouche. Ou des serviettes hygiéniques.
Voilà, et dans le même genre, attention, prudence, ça ne sert, enfin prudence, en tout cas ça ne sert à rien.
Ça ne sert à rien. Autre question Sophie, mon médecin a fermé son cabinet, je ne peux pas aller le voir pour renouveler ma pilule par exemple, comment on fait?
Alors là, c'est très simple. Il faut aller directement à la pharmacie, puisque les pharmaciens ont reçu depuis hier une autorisation exceptionnelle de donner la pilule, à condition, bien sûr, que vous présentiez l'ancienne ordonnance. La secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes s'engage à ce que les femmes puissent accéder à la contraception malgré la gravité de la situation sanitaire. Donc, direction la pharmacie, en faisant la queue dehors sur le trottoir, en respectant toujours, évidemment, le mètre de distance pour éviter de contaminer et de recevoir, entre guillemets, le coronavirus.
Et ça se passera très bien, et avec donc votre ancienne ordonnance, vous pourrez la renouveler chez votre pharmacien pour les prescriptions de pilules. Merci beaucoup Sophie Orange et bonjour à Gauthier de Lombugard.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Qui lui aussi est un des membres brillants de notre brigade. De nombreuses initiatives fleurissent et font le buzz sur les réseaux. Vous nous faites un petit tour de France en confinement, c'est ça?
Oui, la première occupation des Français depuis le début du confinement, c'est le télétravail et ils partagent cela sur les réseaux sociaux. Certains prennent en photo leur bureau, la table de la cuisine ou la table basse du salon. D'autres font des selfies, se filment avec leur nouveau collègue poilu, le gros chien ou le petit chat sur les genoux.
Monsieur Poupi, j'ai une question. Êtes-vous content que votre humaine reste avec vous pendant 2 semaines avec le télétravail?
Et puis, il y a tous ces parents qui nous montrent comment ils travaillent. Comme cette maman qui tente tant bien que mal de se concentrer avec sa fille en robe de princesse bleue qui chante et danse derrière elle. On comprend alors tous ces pauvres parents qui enchaînent les réunions au téléphone ou par visioconférence depuis chez eux. Télétravail plus garde d'enfants, tout cela semble difficilement compatible. Pour passer le temps durant ces longues journées enfermées chez soi, il y a aussi le sport. Même si le gouvernement autorise une sortie footing, certains préfèrent transpirer à la maison, sur le tapis, devant le canapé. Quelques sauts de corde à sauter ou du football, par exemple, sur Instagram, on tente de battre le record du nombre de jongles avec du papier toilette. Une fois la séance de sport terminée, vient le temps de la méditation, de la prière.
Je me dis que ce serait bien de pouvoir quand même louer Dieu ensemble, même si on n'a pas la possibilité de se rassembler dans nos églises et nos communautés.
On ne peut pas sortir profiter du soleil, eh bien, ce couple a trouvé la parade. En peignoir, devant la télévision, on trinque sur l'écran des images d'océans, de plages passant en boucle. Certains trinquent seuls face à leur miroir. Pour éviter de se retrouver tout seul, il faut créer du lien. Ce jeune homme tente sur ce balcon de partager avec ses voisins.
Vous êtes là les Français, allons enfants de la patrie.
Pas forcément une réussite en revanche, sur sa terrasse à Saint-Étienne, ce jeune homme s'improvise DJ, les enceintes face aux immeubles voisins et les platines adossées à la rambarde.
On va essayer de garder ça tous les soirs, on va se faire.
Avec beaucoup de succès dans le quartier, de nombreux habitants sortent à la fenêtre pour danser. Les DJ de rue sont légion et aiment promouvoir leur mix sur Twitter notamment. Entre néo-DJ et forain amateur, ses amis passent la tête par le Velux et tentent d'animer leur quartier résidentiel. Même les personnalités prennent le temps de nous raconter leur quotidien du confinement. L'astronaute Thomas Pesquet par exemple.
Donc alors ça fait quoi un astronaute quand c'est bloqué chez soi? Alors pour le ravitaillement, pas de panique, on risque pas la pénurie alimentaire. De toute façon, moi, la nourriture en boîte, j'ai l'habitude, et puis au moins ici, on reste dans l'assiette.
Emmanuel Macron demande aux Français de transformer cette période de confinement en positive. Ce qui est sûr, c'est que cela leur permet de développer leur créativité.
Bon, on a commencé à se détendre hein, grâce à Gauthier Delon-Bugard et notre brigade qui est absolument partout pour suivre les effets du coronavirus. Alors, autre moment de bonheur dans un tout petit instant. Il sera signé Laurent Gérard avec toute son équipe. Merci d'écouter RTL. Il est 8h47.
RTL,
on a tellement...